Alors, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Jean-Louis Fabiani. Donc, vous êtes à la fois directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur de sociologie et d'anthropologie sociale à Budapest. Alors, dans un monde avec des frontières disciplinaires très étanches et nettes, on pourrait peut-être parler de double formation à votre propos, à la fois agrégé de philosophie et élève de Pierre Bourdieu, de Jean-Claude Passeron notamment. Mais votre travail de recherche est revendiqué comme étant celui d'un sociologue. Il s'empare de sujets culturels divers, le théâtre et son public. Vous avez par exemple publié en 2008 un livre intitulé « L'éducation populaire et le théâtre, le public d'Avignon en action », mais aussi le public du musical ou du jazz dans de nombreuses études. Vous avez aussi mené une enquête très fouillée sur la lecture en prison, dont les résultats ont été publiés en 1995 par les éditions de la BPI. Cet ouvrage, Lire en prison, sera peut-être utile ici à de futurs conservateurs. Et aussi, votre travail de recherche en sociologie historique sur les configurations du savoir vous a conduit à étudier la figure du philosophe dans la société française, avec un premier ouvrage en 1988 intitulé « Les philosophes de la République » et puis en 2010, « Qu'est-ce qu'un philosophe français ?» sous-titré « La vie sociale des concepts de 1880 à 1980 ». Alors, il s'agit bien d'une étude historique, mais non chronologique, et d'un regard sociologique sur une discipline qui ne se laisse pas si facilement saisir par ce regard-là. Le point de vue que vous adoptez dans la première partie a ceci d'original qu'il s'attache à la dimension institutionnelle de l'histoire de la philosophie comme discipline, les questions de programme scolaire et de statut du philosophe, qui est avant tout un enseignant. Les deuxième et troisième parties recherchent peut-être une définition du philosophe français avec des interactions du côté de l'Allemagne et des croisements vers les sciences, vers la religion ou vers les arts. Finalement, vous traitez du philosophe comme d'un objet sociologique dans sa dimension historique. Alors, ceci a quelque chose d'un peu... peut-être incongru, étrange, d'aborder, comme vous le dites, l'histoire de du philosophe français par sa périphérie. Alors, ma question de départ, en quelque sorte, est pourquoi la légitimité même de cette démarche a été considérée comme problématique, et qu'est-ce qui a rendu aujourd'hui possible cette étude ?
Merci beaucoup de cette invitation. Donc, merci beaucoup à Thierry Markoff et Christelle Petit. Et j'essaierai de répondre à la question initiale, inaugurale, qui est d'ailleurs peut-être la seule question qui permette d'introduire à ce petit travail, dont je mesure évidemment plus que les autres les limites. Alors, dans l'entre-deux-guerres, Lucien Febvre avait déjà signaler la difficulté que posait à l'historien l'objet qu'était la philosophie. Au fond, j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, sur de nombreux, peut-être de trop nombreux objets culturels, pour dire vite, et je n'ai jamais subi, effectivement, la concurrence de mes objets dans le compte-rendu que j'en faisais. J'ai beaucoup travaillé sur la chasse, effectivement, dans une perspective historique, et l'histoire de la chasse n'est pas faite par les chasseurs. Il y a une exception, et Lucien Febvre le signalait, pour l'histoire de la philosophie, dont les philosophes entendent avoir le monopole. Et cette question du monopole des philosophes sur leur propre histoire est effectivement une manière d'introduire à la discussion. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient au fond les seuls à pouvoir parler de leur savoir et de leur discipline, parce qu'ils seraient trop techniques pour un historien ou un sociologue. C'est effectivement une manière de répondre à cette question, à la question inaugurale que vous me posiez. Je pense qu'il faut se lancer et effectivement prendre comme point de départ le fait que la philosophie, comme n'importe quelle activité sociale ou culturelle, est justiciable d'un regard d'historien ou de sociologue. Alors, pour prévenir tout malentendu, Je dois dire aussi que depuis plus d'un siècle, les sociologues, et en particulier les sociologues français, qui, comme vous le savez, depuis Alfred Espinas, auteur d'une thèse sur des sociétés animales dans les années 1880, puis Durkheim, puis Mauss, puis Lévi-Strauss, puis Bourdieu, puis d'autres, les sociologues et anthropologues français sont presque tous venus, jusqu'à ma génération en tout cas, de la philosophie, et ils ont très souvent entendu régler des comptes, leurs propres comptes, avec la philosophie qui avait été leur discipline de formation. Alors, ont-ils abandonné la philosophie? Ont-ils rompu avec elle? Ont-ils simplement continué en approfondissant le questionnement philosophique? C'est ce que semble dire Pierre Bourdieu dans ses méditations pascaliennes de 1997, ou simplement, peut-être, ont-ils abandonné les exigences théoriques et conceptuelles de la philosophie pour s'abîmer, on pourrait dire, dans un univers empirique qui leur offrait peut-être des satisfactions plus immédiates et en tout cas moins de difficultés. Peut-être sont-ils aussi des ratés de la philosophie, sommes-nous? Suis-je un raté de la philosophie? Et cette question, effectivement, ne doit pas être éludée dans un commencement. Alors, évidemment, je n'insisterai pas et je n'encombrerai pas notre dialogue d'aujourd'hui par des considérations préalables et peut-être inutiles sur le défi que constitue le fait de faire de l'histoire de la philosophie, non pas en philosophe, hein. Je n'ai pas prétendu cela, j'ai été professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire et je ne le regrette absolument pas, mais je n'ai pas abordé cette question en philosophe. Les philosophes font très bien de l'histoire de la philosophie. Je me suis référé à certains d'entre eux et je n'entends pas les concurrencer dans ce domaine. Ce n'est pas du tout mon projet ni mon propos, et je n'entends pas non plus relever, hein, au sens d'Aufhebung, de l'Aufhebung hegelienne, je n'entends pas relever la philosophie par la sociologie. Effectivement, la sociologie au XIXe siècle a pu peut-être quelquefois penser qu'elle pourrait constituer une sorte de relève ou de dépassement de la philosophie à partir de la philosophie même. Aujourd'hui, on n'y croit plus. La philosophie est bien vive, et c'est cette vivacité que j'ai entendu saisir. Alors, évidemment, ce livre est aussi une contribution extrêmement modeste, parce que j'ai essayé, je vous expliquais ce que j'ai essayé de faire très concrètement. J'ai pris une période qui s'étend sur un siècle. Alors évidemment, un siècle en 600 000 signes, c'est ce qu'on peut appeler, sans hésiter, une réduction. Et donc j'encours le reproche de réductionnisme que j'essaierai d'assumer. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce livre à ce point, disons, de ma carrière. Et un livre qui, évidemment, ne s'adresse pas aux spécialistes et entend parler de la philosophie en termes accessibles, sinon à tous, ce serait une plaisanterie, du moins, disons, ce qu'on peut appeler le grand public cultivé. Donc, mon point de départ a été de traiter, vous avez mentionné le titre de l'intitulé de ma direction d'études, Sociologie historique des configurations de savoir. Et effectivement, je ne me consacre pas exclusivement à la philosophie. J'avais écrit un premier livre il y a 23 ans sur le moment très particulier de la Troisième République, et j'étais à l'époque un jeune sociologue, et je voulais, comme on fait dans un premier livre, dans une thèse, etc., je voulais montrer qui j'étais, montrer un peu ce dont j'étais capable, et j'avais là forcé le trait peut-être du côté de ce qu'on pourrait appeler le sociologisme. Bon, quand on vieillit, on s'amollit, hélas, peut-être, mais c'est pas comme ça que je vois les choses, je les vois sous un jour beaucoup plus favorable pour moi, c'est-à-dire que j'ai essayé de prendre en compte une partie des objections que les philosophes m'avaient adressées. Ils avaient bien voulu beaucoup discuté avec moi de ce premier livre, et il m'avait dit, écoute, non, quand même, là, tu es un peu léger sur les concepts, tu décris très bien, disons, une institution, mais tu restes, disons, au seuil de la philosophie telle qu'elle est pensée. Alors j'ai voulu, disons, essayer d'aller plus loin que dans les philosophes de la République, et puis tout en élargissant le champ de l'enquête, ce livre, je m'empresse de le dire, est fait dans les marges d'un autre beaucoup plus ample et beaucoup plus technique, dont le titre provisoire est « La raison en France » et qui est une histoire du rationalisme français dans sa complexité et dans son côté très, très feuilleté, puisque sous rationalisme on met à la fois la postérité de la philosophie d'Auguste Comte, l'histoire des sciences à la française, et aussi, disons, la raison dialectique telle qu'elle s'est développée dans le marxisme français. Alors, ce livre, donc, est un livre qui ne prétend pas résoudre tous les problèmes de l'histoire de la philosophie, mais il est porté par une conjoncture d'ensemble qui me semble marquée depuis une dizaine d'années en France, depuis plus longtemps dans le reste du monde, par, disons, une nouvelle manière de faire de l'histoire de la philosophie, qui est à la fois portée par les historiens, je pense en France à Stéphane Van Damme par exemple, et à d'autres aussi, qui est portée par des sociologues, et qui est aussi portée dans d'autres pays par des philosophes eux-mêmes qui ont fait ou qui ont recours à une histoire beaucoup plus contextualisée, beaucoup plus politique de la philosophie. Je pense en particulier aux travaux de Pocock et aussi peut-être plus, nous parlons plus directement, ceux de Quentin Skinner, notamment sur Thomas Hobbes. Donc il existe un faisceau d'analyse qui, viennent contester, souvent de l'intérieur, ce qu'on peut appeler l'histoire philosophique de la philosophie, dont un des meilleurs exemples français au XXe siècle est celui de Martial Guéroux, qui a longtemps été, la référence dans ce domaine, et qui entendait ne pas sortir précisément de la conceptualité philosophique, et qui prêtait même aux œuvres philosophiques une systématicité qu'elle n'avait peut-être pas nécessairement. Donc je me situe, dans cette perspective élargie d'une réinterrogation de l'histoire des concepts par, une façon, sinon par les historiens exclusivement, mais d'une manière plus historienne qui s'attache à procéder à des recontextualisations et qui s'attache aussi à ressaisir, des dynamiques, j'y reviendrai, des dynamiques de controverse, des affrontements, des formes d'argumentation que l'étude que vous connaissez bien, en tout cas de par votre peut-être passé scolaire universitaire, l'étude de la philosophie comme un défilé de doctrines ou comme une succession de concepts auxquels on attache des noms propres. Cette contextualisation que cette manière traditionnelle de faire de l'histoire de la philosophie interdit, bien entendu, par définition. Alors, la sociologie souvent, et je me suis distingué dans le chapitre introductif, de manière assez explicite, des sociologies qui entendent, dans la postérité assez lointaine de l'idéologie allemande peut-être, qui entendent précisément réduire les concepts à autre chose que leur réalité conceptuelle et en faire l'expression soit directe, soit médiée par des formes de diffraction, d'en faire des reflets de la réalité sociale. Je pense que, depuis au moins une vingtaine d'années, et dans mon travail plus théorique, j'ai insisté sur cette dimension. Je crois qu'on ne peut pas penser la production intellectuelle, quelle qu'elle soit, sous la forme d'une topique, pour parler comme Louis Althusser à propos de la topique marxienne, une topique où la philosophie serait à un certain niveau, le niveau idéologique, et pourrait être traitée de cette façon de manière indifférenciée. J'ai plutôt essayé, peut-être suis-je ici dans une forme d'air du temps qui gagnerait à être explicité, mais j'ai essayé, au fond, dans d'autres travaux, de critiquer cette dimension dans laquelle on parle des causes sociales d'eux ou des facteurs sociaux d'eux pour traiter d'un objet social, puisque tous les objets, comme nous le rappelait Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, tous les objets sont par définition sociaux, ce qui constitue à la fois le privilège et probablement le cauchemar du sociologue. Mais qu'est-ce que c'est de dire qu'un objet social est social ? Ça peut être une forme de redondance, on peut insister sur cette socialité du social, ça peut être aussi une manière d'expliquer le social par un autre morceau du social. Et dans ce cas-là, on se heurte à des difficultés ou à des contorsions assez compliquées. Donc j'ai voulu, disons, revenir peut-être à une plus grande simplicité et essayer de prendre un parti descriptif pour traiter d'un objet qui est un objet culturel assez formidable et assez fascinant. Alors, en croisant, au fond, deux éléments, pour commencer, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je continuerai d'y répondre, mais bon. En tout cas, voilà, je pense que j'ai été formé par Pierre Bourdieu, auquel je ne cesse de rendre hommage, mais je pense que, comment dire, les sociologues ne doivent jamais faire les fiers à bras et prétendre qu'ils... en finissent avec l'opacité du monde social et qu'ils proposent un programme de libération ou d'émancipation intellectuelle. Donc mon propos est beaucoup plus modeste que celui d'installer le sociologue dans la position à la fois royale et probablement dérisoire du sociologue roi. Alors, j'ai voulu croiser deux objets, au fond, dans mon travail. Le premier, c'est celui de la question, évidemment paradoxale, de savoir ce qu'est une philosophie nationale. Pourquoi peut-on parler de philosophie française, puisque, pour parler simplement, les concepts n'ont pas de patrie. Et le corpus canonique de la philosophie occidentale, en tout cas tel qu'il s'est, constitué progressivement, et ça avait été l'objet pour la France de mon premier livre, de montrer comment, au fond, un canon est un produit, ça vous le savez tous, un produit historique, et le produit d'une série de coups de force, de décisions, d'appariements, etc., etc., d'exclusion, de retour en grâce. Voilà. Bon, donc j'avais essayé de montrer ça, et on peut se demander au fond ce qu'il en est d'une philosophie française dont mon premier livre avait étudié des processus de nationalisation, puisque, disons, un espace de discussion à l'âge classique qui était européanisé se constitue au XIXe siècle. D'ailleurs, avec la construction de l'État-nation, le programme d'une philosophie nationale. Alors, qu'en est-il de cette philosophie nationale, comme on dit de manière assez creuse à l'ère de la globalisation? Comment s'est transformée cette francité? C'était un de mes premiers objectifs. Donc, le premier paquet de questions, c'est précisément qu'est-ce qu'une philosophie nationale? Pourquoi est-ce qu'on peut parler encore aux États-Unis ou dans le monde anglophone de French Theory comment on peut le relier, disons, à une forme de Frenchness ou de francité qu'on pourrait tracer dans une histoire plus longue. Mon deuxième objet, c'est cette unité de temps. Alors, quand vous traitez d'un objet quelconque, évidemment, il faut justifier l'unité de temps que vous avez choisi. Mais j'ai choisi 1880. Alors, je postule, bien entendu, si vous traitez d'un objet de manière unitaire, je postule évidemment une unité relative de la philosophie française pendant un siècle. Ceci peut être évidemment discuté et contesté, mais je présente ce choix évidemment comme une proposition qui n'est pas exclusive d'autres entrées dans l'objet et qui ne présuppose pas une continuité ou une homogénéité absolue de cette période. Alors le point de départ, bien entendu, est évident, c'est un point de départ politique et institutionnel. Ce sont les débuts de la Troisième République qui instaurent un nouveau régime d'exercice de l'enseignement philosophique qui a été maintes fois décrit dans les programmes, dans les instructions, mais aussi dans le très grand débat qui s'est instauré entre les universitaires sous la Troisième République, sous la forme de la liberté du professeur. La philosophie incarne la liberté du professeur, le programme est indicatif, le professeur peut le traiter comme il l'entend, et le philosophe, le professeur de philosophie français, est précisément l'incarnation de la liberté républicaine à l'œuvre. Alors bien entendu, comme je l'avais montré il y a déjà longtemps, il n'y a pas de révolution dans les programmes par rapport à ce qui peut exister à la fin du Second Empire, après la suppression de la philosophie entre 1852 et 1963 sous l'Empire autoritaire. Il n'y a pas de révolution, disons, du canon ou du programme. Il y a des aménagements substantiels, mais il y a surtout une nouvelle manière de traiter cet objet dans un contexte, bien sûr, qui est celui de la République, mais aussi de la concurrence accrue entre les disciplines. Donc, la philosophie, disons, se définit par rapport à une forme d'exercice de la liberté et à l'exercice, alors peut-être monopolistique, et j'y reviendrai tout à l'heure dans des discussions plus récentes, de l'esprit critique. Alors, cette dimension me paraît tout à fait importante. Donc, c'est une réinstitutionnalisation et une mise au présent de la philosophie à laquelle on assiste au début des années 1880, et c'est un point de départ sur lequel vous serez d'accord. Mais pourquoi arrêter le compteur, si on peut dire, à la fin des années 1970? Alors, je fais une hypothèse qui n'est pas entièrement vérifiée dans mon livre, ça aurait été trop long. Donc, je vous demande une certaine confiance. C'est une décision. Je pense que à partir de la fin des années 70, alors, sous les effets conjugués, probablement, dont je n'ai pas mesuré, disons, le poids respectif ou relatif, mais sous les effets, disons, conjugués à la fois de l'apparition d'une nouvelle génération philosophique qui n'est pas prête à faire cet exercice de longue patience que je décris au début de mon livre, enseigner dans l'enseignement secondaire, faire ce cursus honorum par les villes de province dans lesquelles nombreux philosophes ont commencé leur carrière, y compris à une époque assez récente, mais qui veulent une reconnaissance instantanée, mais aussi des transformations du public de la philosophie sous l'effet de ce qu'on appelle vaguement la massification, mais en tout cas le fait que pratiquement 80% d'une cohorte, d'une classe d'âge accède, disons, aux classes terminales de l'enseignement secondaire et donc à une certaine forme de philosophie, l'exposition à la philosophie, et puis effectivement des transformations que Bourdieu a décrites en d'autres termes du champ intellectuel, du rapport, disons, aux médias, etc., etc., font que l'année 1977, l'apparition des 10 nouveaux philosophes contribue, disons, à créer un nouveau paysage dans lequel ce que j'ai appelé la philosophie de consolation, la philosophie liée, disons, au développement personnel, etc., la sagesse, comme marchandise, devient une dimension importante de la philosophie. Et ce que je décrivais, disons, dans la période précédente, je pense cet alliage sur lequel je vais dire deux mots entre l'ésotérique et l'exotérique tend à se dissoudre sous la forme que j'appellerais d'un pastiche généralisé. Je pense en particulier ici à la figure de Bernard-Henri Lévy qui rejoue, disons, souvent maladroitement, il suffit de regarder CNN ces jours-ci et ses longs développements sur le feeling of guiltiness, je le cite, attribué au président de la République française, pour se convaincre effectivement qu'on est ici dans une dimension de pastiche ou de parodie de l'intellectuel total tel que Sartre l'avait constitué, qui ne trompe pas son monde. Alors, ce choix, disons, d'un butoir temporel, bien entendu, il est soumis à discussion de la même façon que le degré de cohérence, de cohésion, de continuité de cet objet dépend aussi de la manière dont on le construit. Bon. J'ai, comme tous les gens de ma génération, disons, fait un parcours, comment expliquer ça en sociologie, du macro au micro, d'une approche, disons, par de grandes unités, que l'école des annales en particulier, mais aussi les grands paradigmes auxquels nous étions confrontés comme étudiants à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc ces grands objets inscrits dans la durée et presque immobiles qui avaient constitué notre adolescence théorique et empirique se sont trouvés, bien entendu, ça a été décrit maintes fois, en particulier par les historiens, et je n'y reviens pas, se sont trouvés un petit peu, devenus obsolètes, alors que, et en particulier dans ma discipline et dans le monde anglophone, dans lequel j'ai été aussi formé dans les années 70 en Californie, cet intérêt, disons, pour le micro, pour la micro-interaction, pour les micro-objets, devenait de plus en plus pressante et mettait en question, disons, ces gros objets presque immobiles auxquels Fernand Braudel avait donné des titres de gloire. Donc j'ai été bien entendu affecté dans ma carrière intellectuelle par cet impératif de retour au micro, et notamment les historiens italiens de la microstoria qui ont eu, disons, dans les années 80, début des années 90, un si grand prestige dans nos disciplines, disons, ont fait converger leurs forces avec les ethnométhodologues ou les interactionnistes radicaux de la sociologie américaine pour mettre en question, disons, nos grandes constructions et nos grands édifices. Et donc, j'ai été évidemment attentif au fait que le mode de construction de l'objet dépendait pour une très grande part de l'échelle qui servait à cette construction. Et que donc on pouvait ou bien voir la philosophie au niveau micro, ce que les sociologues, ethnométhodologues ont appelé classroom interaction, et qui est, j'ai un étudiant en co-tutelle avec Chicago, Ellie Thorkelson, qui travaille justement sur, il travaille à Paris 8, à Aix, mais aussi dans des lycées, sur ce qui se passe dans une classe de philosophie. On peut aussi l'étudier au niveau d'une controverse locale, délimitée, mais aussi on peut précisément faire jouer, comme l'avait fait remarquer Jacques Revel dans le livre qu'il avait édité sous ce titre, Jeu d'échelle en 1996, on peut aussi faire jouer les échelles d'observation à l'intérieur même d'un travail singulier. Et donc, c'est dans l'introduction à mon livre ce que j'essaye de programmer. Et bien entendu, le programme n'est pas entièrement réalisé puisque le livre reste de dimension modeste. Mais en tout cas, c'était une de mes ambitions dans ce petit livre que de me demander au fond si on pouvait très empiriquement faire jouer les échelles d'observation et passer effectivement de la polémique entre Foucault et Derrida qui commence en 1963 et connaît son acmé en 1971 avec précisément des formes plus stabilisées de réalité conceptuelle. Et puis surtout, comment faire le lien entre les observations situées, comme on dit, les interactions situées, comme disent les interactionnistes, les sociologues interactionnistes américains, et puis, justement, ces dimensions structurelles, ces dimensions qui sont liées à la présence, au mode de présence d'une discipline qui, dans l'histoire universitaire française, mode de présence d'une discipline qui passe effectivement par une modalité tout à fait particulière qui est l'enseignement de la philosophie dans les lycées, mais aussi par le statut que peut avoir la discipline dans l'enseignement supérieur. Alors, voilà, disons, pour justifier, disons, mon point de départ et ma manière de faire dans ce petit livre, c'est-à-dire ne rien s'interdire, c'est-à-dire faire jouer des variations d'échelle, c'est-à-dire se poser la question des discontinuités à l'intérieur même d'une période que l'on postule relativement homogène, relativement bien entendu. Alors, une objection qui vous avez déjà faite, si je parle encore un petit peu, puis après on dialoguera, bien sûr, de manière que j'espère un petit peu polémique et controversiale. Bien entendu, une objection que je me suis faite à moi-même, c'est de se dire quand même, tu parles de réalité, la Troisième République et sa première partie, en particulier. Et puis des années 60-70, qui, disons, dont le parfum idéologique est absolument différent. D'un côté, tu as ces grands philosophes institutionnels qui sont très bien installés dans le paysage républicain, et puis de l'autre, tu as des rebelles, hein, dont les premiers, bien sûr, dans mon livre, j'analyse ces jeunes hommes en colère autour de Paul Nizan et au début des années 30, qui vont, réorienter la philosophie, non plus à partir de cette position que j'avais appelée la discipline du couronnement dans mon premier ouvrage, et qui implique une dimension législatrice, hein, la philosophie comme organisatrice, évaluatrice de l'ensemble des savoirs, et puis cette discipline qui, nous le disent tous les historiens et tous les philosophes acteurs de la Troisième République, couronne les études secondaires. Alors, cette expression, la discipline du couronnement, devait être le titre de des philosophes de la République. Et c'est comme ça que j'avais apporté le manuscrit à Jérôme Lindon. Vous vous intéressez à la matérialité du livre, je crois. Donc je fais un excursus de ce côté-là. Donc je lui apporte le manuscrit et il me dit c'est très bien, sauf le titre qui est absolument nul. La discipline du couronnement plus Fabiani, qui est un nom complètement inconnu, c'est un désastre programmé. Ah, il me dit, monsieur, changez de titre d'ici demain matin. Alors bon. Et j'avais aucune idée, parce que la discipline du couronnement, évidemment, ce titre, je l'avais mûri pendant des mois et des mois. Donc j'étais très contenancé, je n'avais plus aucune idée. Et j'ai pris le titre du chapitre 1, qui s'appelait Les philosophes de la République, comme titre, et puis j'ai trouvé un autre titre pour le premier chapitre. Bon. Et alors Lindon accepte ce changement, tout va très bien. Et puis, la vie s'écoule. Quelques années plus tard, je retrouve Jérôme Lindon et qui me dit, vous avez vu, parce qu'entre-temps, la notion de discipline du couronnement avait une sorte de succès. Elle avait été citée dans un rapport par Derrida et Bouvresse, etc. Elle était devenue une manière de parler de la philosophie comme une autre. Et Jérôme Lindon me dit toujours facétieux, enfin oui, elle me dit, vous avez vu, la discipline du couronnement, hein, ça a fait son chemin. Il me dit, on devrait vous donner des droits d'auteur. Et je lui dis, justement, monsieur, c'est une chose que vous faites assez rarement. Voilà, donc pour ce titre. Donc, mais maintenant, je suis considéré comme effectivement l'auteur de la discipline du couronnement. En tout cas, discipline du couronnement, c'est difficile de l'attribuer à Sartre, à Foucault ou à Derrida, qui se sont situés plutôt dans une perspective, disons, de critique radicale, ce que j'ai appelé les marges. Bon. Mais une des caractéristiques de la philosophie, dans la configuration de savoir française, c'est précisément qu'elle peut jouer de cette articulation entre le sommet et les marges, entre, disons, une forme de hauteur épistémologique et un certain penchant à la subversion. Alors, voilà, il me reste une vingtaine de minutes, je crois, environ. Donc, je voudrais essayer de rendre plus explicite, disons, mon propos à partir de trois exemples que j'aborderai rapidement. Alors, le premier exemple, c'est bien sûr celui de la question de ce rapport entre la philosophie et la critique. Alors, je prends un exemple qui est dans mon livre, donc je le rappelle uniquement pour mémoire, et puis on pourra en discuter. Je l'expliciterai si certains ne connaissent pas. Alors, comme vous le savez, quand je parle de cet objet à l'étranger, ça surprend beaucoup, mais c'est vraiment très surprenant. Quand le jour où l'épreuve de philosophie du baccalauréat a lieu en France, elle est commentée à la télévision nationale, à la radio, et en général, on convoque un philosophe, souvent André Comte-Sponville, mais aussi on peut convoquer un ministre, un intellectuel, ou un peu n'importe qui, à faire la dissertation ou le commentaire de texte. Hein, cet intérêt national pour la philosophie peut sembler une particularité. Tout le pays semble touché pour quelques minutes par le goût du débat conceptuel. Alors, cette présence de la philosophie dans la société, hein, c'est une présence matérielle, très paradoxale, et elle a fait l'objet, en 2008, d'une discussion très vive entre un ancien ministre de l'Éducation nationale, lui-même philosophe, lui-même d'ailleurs, vous avez lu « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Je pense d'ailleurs qu'une vie réussie consiste d'abord à être capable d'écrire un livre « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Vous savez, la vieille plaisanterie sur comment faire fortune en 10 leçons, précisément, en écrivant un livre « Comment faire fortune en 10 leçons ?» Bon. Mais, donc, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Luc Ferry nous dit « C'est regarder la mienne », d'abord. Mais, en tout cas, ce livre, en 2008, dans le quotidien catholique La Croix, a une violente diatribe contre l'enseignement de la philosophie, au lieu, comme on aurait pu le croire, de la défendre. Effectivement, j'avais, dans mon premier livre, étudié précisément les formes de défense de la philosophie, qui avaient fini par constituer par une sorte de genre littéraire autonome. Et Luc Ferry, lui, va cartonner, stigmatisant l'arbitraire des procédures de notation au baccalauréat, qui sont aussi un thème récurrent de la plainte des parents d'élèves. Ma fille a eu 17 toute l'année avec son professeur et elle a 3, etc., etc. Bon, donc, arbitraire des procédures de notation au baccalauréat, et nécessité, selon Luc Ferry, de faire évoluer la discipline vers un enseignement d'histoire des idées. Je cite Luc Ferry, « Il y a bien sûr ici et là des professeurs de grand talent, mais globalement la philosophie est très mal enseignée. La preuve, demandez autour de vous, 20 ou 30 ans après, l'avoir étudié, les gens n'ont toujours pas la moindre idée de ce que c'est. Un vague esprit critique, un art de la réflexion, mais croyez-vous sérieusement, et nous en avons dans la salle, c'est pas exprès, mais croyez-vous sérieusement qu'un mathématicien ou un journaliste ne réfléchissent pas ou manquent d'esprit critique, ils ne sont pas pour autant philosophes. La vérité, c'est que la philosophie n'a à peu près aucun rapport avec ce qu'on enseigne en terminale. » Fin de citation. Alors, ce texte de Ferry, dans La Croix, fait fulminer un professeur marxiste bien connu, qui fait très souvent des chroniques dans l'Humanité, qui est Jean-Paul Jouhary, lui-même professeur du secondaire, et Jouhary explose. Alors, il n'explose pas dans l'humain, mais dans Libération, mais il s'énerve. Je le cite. « Comme chaque année, l'épreuve de philosophie du baccalauréat occasionne à la fois un regain d'intérêt pour cette matière dans le grand public et quelques misérables manœuvres contre son enseignement. Il est vrai que la philosophie n'est pas une discipline tout à fait comme les autres, puisque si toutes les autres sollicitent et développent, bien sûr, la réflexion et l'esprit critique des élèves, la philosophie en fait son objet et l'étend à toutes les dimensions de la vie individuelle et collective. C'est en France que cette ambition est née et qu'elle occupe une place si importante. C'est donc en France qu'elle fait l'objet d'attaques permanentes. » Fin de citation. On voit d'ailleurs cette nationalisation de la philosophie qui ne va pas de soi, puisque la philosophie allemande, la philosophie grecque pourrait aussi, disons, être candidat à cette revendication d'une ambition critique, mais en tout cas ici elle est carrément pensée du côté de la nation. Alors je crois que ici dans le petit texte de Jouhary qui répond à Luc Ferry, on trouve, alors je renvoie à mon livre pour ça, on trouve des formes rhétoriques qui sont extrêmement récurrentes et qui vont, insister sur ce que j'appelle la dimension extraterritoriale de la philosophie par rapport à ce qu'on pourrait appeler le système ordinaire des disciplines scolaires. Il apparaît ici sous l'espèce de la fonction critique. Donc, le philosophe se spécialise, il développe une légitimité à propos de cette fonction critique. Cette fonction critique est une fonction à la fois épistémologique, mais aussi une fonction civique. Et la dimension épistémologique et la dimension civique semblent indissociables. Donc, organiser et rendre raison de savoir spécialisé, c'est aussi, dans le même mouvement, former le citoyen. Donc, la philosophie, ici, échappe au régime commun des savoirs institués et s'installe au sommet de la hiérarchie des connaissances où, et les choses ne sont pas contradictoires, en fait une arme révolutionnaire contre l'ordre épistémologique et social établi. Alors vous savez, il y a une phrase de Michel Foucault qu'on cite toujours quand on lui demande s'il est philosophe, historien, enfin qui il est, et il répond « Ne me demandez pas qui je suis. Ne m'assignez pas au fond à un ordre institutionnel ou scolaire que je récuse. » Et cette dimension que j'appelle extraterritoriale de la philosophie, elle est assez bien au fond incarnée par la figure de Michel Foucault. Alors, l'enseignement de la philosophie, vous le savez, a deux propriétés qui n'ont pas été formellement affectées depuis le début de la Troisième République, et c'est seulement aujourd'hui, et de manière expérimentale, que ces propriétés vont être changées. L'enseignement de la philosophie est délivré en une année et ne suppose pas de gradation. Donc, il s'offre sous la dimension qu'on appelait autrefois du Thomaszein ou de l'étonnement, qu'on dirait dans un langage plus contemporain de l'ordre du commotionnel. On découvre son ou sa prof de philo brutalement et donc cette dimension est tout à fait intéressante. Les métaphores du choc sont souvent utilisées pour rendre compte de la force de cette expérience et des conséquences qu'elle peut avoir sur les dispositions d'un grand adolescent. La philosophie est promesse d'ouverture vers un autre monde, et en même temps, elle fait entrevoir la fin de la relation scolaire. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais précisément dans cette dimension d'extraterritorialité, il y a cette dimension de dénégation du scolaire, dont Bourdieu et Passeron, il y a presque un demi-siècle, ça ne nous rajeunit pas, avait montré qu'elle était aussi une composante du scolaire. Hein, pouvoir mettre à distance, dans une forme de distance au rôle, pour parler comme Erving Goffman, le scolaire, c'est une propriété précisément de l'excellence scolaire. Et la philosophie, elle joue ce rôle à merveille dans la mesure où elle est l'instance qui va précisément critiquer aussi, en sa fin, l'institution scolaire de l'enseignement secondaire. Alors, ce qui s'est passé, et j'essaie d'aller plus vite, ce qui s'est passé évidemment au cours du siècle, c'est une distorsion croissante entre cette dimension tout à fait élitaire de la philosophie et puis son public. Hein. Et dans mon livre, je dis que progressivement, la philosophie a été mise à nu par son public même. Effectivement, quelques milliers de bacheliers au tournant du XXe siècle, environ 7000, et puis aujourd'hui, autour de 600 000, c'est effectivement une place de la philosophie tout à fait différente dans la société et une relation au savoir philosophique qui est d'un tout autre ordre. Alors, il est clair qu'au cours du siècle, alors j'avais étudié à propos du rapport entre philosophie et histoire sur les 30 premières années de la Troisième République, mais dans le petit livre récent, j'essaye d'étendre ce constat au rapport à d'autres disciplines. Il est clair que ce qu'on appelle la classe de philosophie, c'est-à-dire un enseignement intensif, environ 8 heures par semaine de philosophie, dans un contexte, disons, d'enseignement des humanités, ce dispositif-là a décliné tout au cours du siècle au profit, bien entendu, d'autres formes d'excellence scolaire. Je n'ai pas besoin de vous parler aujourd'hui du poids et du prestige purement social de la classe S et du fait que ceux qui se trouvent aujourd'hui en classe de philosophie ont des chances de ne pas être les meilleurs élèves dans le système scolaire. Et donc cette relation tout à fait en porte-à-faux, on pourrait dire, entre les ambitions multiséculaires de la philosophie et les conditions objectives de son exercice dans la France contemporaine, constitue aussi une des dimensions, disons, de cette distorsion. Alors cette distorsion, je l'avais déjà analysée dans mon premier livre à propos de la Troisième République, parce que cette problématique décliniste, on pourrait dire, existait déjà au début du XXe siècle. Nous n'avons, disait un professeur de philosophie qui répondait à l'enquête, vous savez, de l'homme des tests, Alfred Binet, qui avait fait en 1907-1908 une grande enquête sur l'enseignement philosophique. Il voulait savoir si ces trucs de psychologie mordaient un peu sur le public. Bon. Philosophique, enfin bon, c'est une drôle d'enquête, mais il y a des témoignages de profs. Et donc un des profs de philosophie interrogé par Binet se lamentait, nous n'avons désormais que le rebut des sciences. Bon. Donc cette thématique décliniste, elle est ancienne, mais elle s'est, amplifiée au cours du siècle. Et une des questions que j'aborde que très rapidement dans mon petit livre et dont j'envisage de développer par la suite, notamment dans La Raison en France, c'est la question de l'articulation, bien sûr, entre la philosophie et l'enseignement des sciences. Alors j'en parle dans le chapitre consacré aux sciences, mais je crois que c'est aussi une des clés, disons, l'articulation qui est au fond dans la postérité de l'enseignement des jésuites entre la philosophie et les humanités, fait partie, disons, la question de savoir ce qu'est un philosophe français. Et il est évident qu'il existe dans d'autres pays, dans d'autres cultures, d'autres formes d'articulation entre les philosophies et l'enseignement des sciences, de la nature ou l'enseignement des mathématiques. Bien, donc, pour dire vite, la philosophie a, de la place de la philosophie s'est dégradée dans l'enseignement français au cours du siècle, au profit d'autres disciplines, et puis, bien entendu, l'enseignement de la philosophie, qui était, à la fin du XIXe siècle, réservé aux garçons de la bourgeoisie, est devenue de plus en plus féminine, puisque la part des filles n'a cessé de croître quand l'enseignement des filles et des garçons a été unifié dans la philosophie. Aujourd'hui, pour une partie du public de la philosophie et sa virtuosité rhétorique constituent désormais une sorte de langue étrangère. J'essaie de montrer que la familiarité sociale et cognitive avec un certain nombre de thèmes intellectuels et conceptuels s'est rompue, et bien entendu cette rupture est encore plus forte à la fin de la période que j'étudie. Au fond, ces formes de familiarité pré-réflexive, pour parler en termes d'habitus, entre la philosophie française et des catégories sociales, s'est progressivement dénouée. Alors, bien entendu, j'écris un petit texte là-dessus en ce moment, puisque La distinction de Bourdieu est un livre qui a fêté ses 30 ans il y a 2 ans, mais on continue de les célébrer, il y a eu un grand colloque à Sciences Po. Et évidemment, la grande question qui taraude le modèle, vous parlez de légitimité tout à l'heure, tous les modèles de la légitimité culturelle, c'est une figure que les sociologues français ont largement ignorée, mais qui, dans la littérature allemande, et puis chez Marx, depuis Goethe jusqu'à nos jours, la figure du philistin est une figure centrale. Et pour Bourdieu, c'est une figure impensable. Or, aujourd'hui, bien entendu, une partie de nos classes dirigeantes, en tout cas celles qui s'incarnent sous sa forme présidentielle, ressemble très, très, très pour très, disons, aux formes les plus accusées du philistinisme. Mais je pense, au fond, que même si, comme le disait Edmond Gobelot en 1925 dans La barrière et le niveau, ouvrage sociologique, s'il en est de la part d'un logicien, le bourgeois n'a guère d'estime pour la pensée pure, donc l'adéquation, disons, entre la philosophie et un certain état de la bourgeoisie française doit être mise en question, mais ça ne suffit pas, disons, à disqualifier entièrement mon hypothèse de la perte progressive d'une familiarité. Alors, j'en viens maintenant à mon deuxième point, celui que je voulais aborder rapidement, c'est précisément l'analyse, alors purement sociologique, que je donne de la célèbre polémique entre Foucault, enfin Derrida, qui polémique, et Foucault. Alors ma version de l'analyse est purement sociologique dans la mesure où elle porte précisément sur les coûts qui sont échangés et sur les formes d'argumentation et de justification par rapport à une pratique de la philosophie qui sont échangées. Alors, vous connaissez cette célèbre polémique, elle fait l'objet d'analyses réitérées, notamment en dehors de France, mais elle est tout à fait intéressante. Pourquoi ? Parce que, donc c'est en 1963, donc j'essaye en 5 minutes d'en résumer tous les éléments, parce que c'est aussi un des, je ne dis pas un des morceaux de bravo, mais c'est un des moments de mon travail où j'essaye de mettre en œuvre, disons, de faire sérieusement, je fais sérieusement le programme auquel je me suis engagé de bout en bout, mais où j'essaie de montrer vraiment au lecteur qu'est-ce qui me différencie, parce que dans la discussion, On m'a déjà posé la question. Enfin, en France, j'ai pratiquement jamais. C'est un honneur que de parler avec vous parce que j'ai pas eu l'occasion de discuter de manière critique. Mais à l'étranger, on me dit qu'est-ce qui vous différencie de Frédéric Worms et de son histoire des moments philosophiques. Il a publié l'an dernier une histoire de 100 ans de philosophie française. Bon. Tout me différencie de Frédéric Worms, je crois. En tout cas, ici, j'essaye de montrer en quoi je ne suis pas philosophe et en quoi on peut faire, puisque c'est ça mon défi, de l'histoire de la philosophie, comme on ferait l'histoire de n'importe quel objet, bien entendu culturel, symbolique, ayant un contenu. Alors, en 1963, Derrida lance une polémique contre son aîné de 4 ans, Michel Foucault. Derrida est né en 30, Foucault en 26, qui est presque son condisciple. Enfin, Foucault a un petit peu enseigné l'économie supérieure, Derrida a suivi ses cours, mais ils sont de la même génération. Et c'est important. Donc, au collège de philosophie, dont Jean Val est l'animateur, eh bien, le 4 mars 1963, Derrida va proposer sa lecture du livre qui est la thèse de Foucault, qui a été publié 2 ans auparavant chez l'éditeur Plon, l'éditeur du général de Gaulle, sous le titre « Folie et des raisons, histoire de la folie à l'âge classique ». Vous savez qu'au début des années 70, ce livre fera l'objet d'une réédition un petit peu transformée, notamment parce qu'elle inclut la polémique avec Derrida dans la célèbre bibliothèque des histoires dirigée par Pierre Noah, avec le truc rouge, et non pas dans une bibliothèque de philosophie, en 1972. Donc, entre 63 et 72, il se passe une série d'événements, de micro-événements, que j'ai essayé d'analyser de manière serrée, et dont je tire un ensemble de conclusions sociologiques. Donc, le 4 mars 63, Derrida lance la polémique. Alors, bien entendu, j'ai encore 10 minutes. Je peux pas tout vous raconter, vous lirez le livre. Derrida montre dans ce texte qui sera republié sous deux formes. Et justement, puisque vous intéressez à la matérialité des textes, je pense, hein, un peu dans la postérité de Mackenzie, à la sociologie matérielle des textes, je pense que c'est important. Donc Derrida va à la fois faire un exercice d'hommage, un peu... Derrida et d'Elbiard, alors j'utiliserai, puisque moi-même je suis de Babelwed, un terme peut-être que Zbiber, c'est Fayot, quoi, Lèche-Bot, à l'égard de Foucault, et en même temps il va le flinguer très durement. C'est ce qu'on appelle alors dans ma région d'origine un baiser qui tue. Hein. Un baiser qui tue, il lui fait un baiser qui tue, alors je vous lis quand même l'Incipit de Derrida, vous le connaissez tous par cœur. Mais il est complètement fou. Je cite, livre, alors c'est le livre de Foucault, livre à tant d'égards admirable, livre puissant dans son souffle et dans son style, d'autant plus intimidant pour moi, qui garde d'avoir eu naguère la chance de recevoir l'enseignement de Michel Foucault, une conscience de disciple admiratif et reconnaissant. Or, la conscience du disciple, quand celui-ci commence, je ne dirais pas à disputer, mais à dialoguer avec le maître, ou plutôt à proférer le dialogue interminable et silencieux qui le constituait en disciple, la conscience du disciple est alors une conscience malheureuse. En commençant à dialoguer dans le monde, c'est-à-dire à répondre, elle se sent déjà prise en faute, comme l'enfant qui, ne sachant pas, par définition, et comme son nom l'indique, hein, parler, c'est l'infance bien sûr, ne doit surtout pas répondre. Et lorsque, comme c'est ici le cas, ce dialogue risque d'être entendu, tiré à tort, tiré, comme une contestation, le disciple sait qu'il est seul à se trouver déjà contesté par la voix du maître qui, déjà en lui, précède la sienne. Il se sent indéfiniment contesté ou récusé ou accusé. Comme disciple, il l'est par le maître qui parle en lui avant lui pour lui reprocher d'élever cette contestation et la récuser d'avance, l'ayant développé avant lui, comme maître du dedans, il est donc contesté par le disciple qu'il est aussi. Ce malheur interminable du disciple tient peut-être à ce qu'il ne sait pas où il se cache, encore que, comme la vraie vie, le maître est peut-être toujours absent. Il faut donc briser la glace, ou plutôt le miroir, la réflexion, la spéculation infinie du disciple sur le maître, et commencer à parler. Fin de citation. Alors, ce texte est absolument génial. Si on veut le recontextualiser, on y verra l'émergence, alors c'est là que j'interviens en sociologue, d'un nouveau style de débat entre philosophes universitaires, lequel admet quelque chose comme un corps à corps assez éloigné des rituels académiques et qui emprunte un certain nombre de ses traits à la polémique littéraire. Alors vous savez très bien que Derrida et Foucault se sont intéressés dès leur jeunesse à la littérature. Raymond Roussel pour Foucault, mais d'autres aussi. Derrida, ce sera Genet, Jabès et compagnie. Et je pense qu'ici, on est dans une situation très étonnante qui est, alors là, je me réfère à ce que disait mon maître Bourdieu, il y a des moments dans l'histoire où le sens des ambitions légitimes est plus élevé que d'autres. Alors, maintenant, reste à savoir pourquoi il est plus élevé que dans les années 50, mais ici, le challenger a 33 ans et il affronte un tenant du titre de 37 ans qui peut aussi être considéré comme un prétendant. Derrida, quand il dit « le maître est peut-être toujours absent », il renvoie aussi à la perception d'un espace des possibles extrêmement ouvert pour cette génération de philosophes. La controverse que Derrida va installer, c'est 3 ans après la critique de la raison dialectique de Sartre, la controverse que Derrida installe a pour effet de déplacer l'attention sur cette génération. C'est entre eux qu'ils se disputent. Il ne s'agit en aucune façon d'attaquer les philosophes dominants, qui détiennent des positions universitaires centrales, ou qu'ils jouissent d'une reconnaissance sociale hors de l'université, comme Sartre par exemple. Donc ici, on est dans une requalification de la controverse que j'avais appelée dans l'article de 1900 que j'ai consacré à cette polémique, une controverse instituante. Derrida, d'emblée, joue sur deux tableaux, dans deux univers, on pourrait dire. Le premier, c'est celui de l'institution universitaire. La première publication de sa diatribe contre Foucault, Cogito, Histoire de la folie, est publiée en 1964 dans la vénérable Revue de métaphysique et de morale, créée en 1893 pour régénérer, disons, le spiritualisme rationaliste. Et elle va être republiée 3 ans plus tard dans un autre univers. Vous voyez, on change de Derrida, c'est changer de monde. Dans le recueil d'essais L'écriture et les différences, publié aux éditions du Seuil, là je bosse en conservateur, la bibliothèque, dans la collection littéraire d'avant-garde telle qu'elle, dirigée par Philippe Solers. Alors vous voyez un petit peu, d'un côté la revue de Métaf, comme on dit chez nous, enfin, comme on disait quand j'étais philosophe, et de l'autre, tel quel, Philippe Solers, extérieur au monde universitaire. Double existence sociale de ce texte. Vous ne me contredirez pas en tant que spécialiste du livre et de l'écrit. La double existence sociale de ce texte éclaire une partie des usages possibles de la polémique qui consiste précisément à jouer sur le cadre de l'interaction. Derrida, par le caractère très dramatisé de son introduction, dans la réalité, il est autant condisciple que disciple que de Foucault. Tout ce truc est un montage extraordinaire. Et par la publication de son essai dans la collection telle qu'elle, contribue à la redéfinition globale de la discussion philosophique. Sous ce rapport, les formes de présentation du débat, vous ne me contredirez pas, comptent autant que le contenu du débat lui-même. La controverse a été instituante parce qu'elle a permis de contraster deux types de rapports à la philosophie, entendus comme corpus de textes canoniques, indéfiniment commenté. Il y a une phrase du médiéviste catholique, du philosophe médiéviste et catholique Étienne Gilson, que j'adore: en philosophie, il n'y a pas de mort. C'est peut-être aussi pour ça qu'on fait de la philosophie, pour avoir une assurance vie éternelle. Mais bon. Parce qu'en philosophie, vous pouvez être complètement tombé aux oubliettes et être ressuscité, remonté dans un débat. Donc des périodes de latence très longues peuvent avoir une fin. Donc, Derrida entend donner à Foucault quoi ? Et je terminerai là-dessus. Je sauterai mon histoire de modernisation philosophique. Vous me lirez si vous n'avez pas trop assez déjà. Alors, Derrida entend donner à Foucault une leçon de lecture. Ici, on est à l'ANSIB, donc. Il entend lui donner une leçon de lecture en disant « Mon pote, tu as mal lu Descartes. » Évidemment, c'est ça aussi l'histoire de la philosophie. Ce sont des querelles à propos d'histoire de lecture. « Tu as mal lu Descartes. » Il dit « Derrida souhaite interroger, je le cite, « certains présupposés philosophiques et méthodologiques de l'histoire de la folie. » Et donc, il dit « Moi, je vais relire naïvement Descartes. Je vais enlever toute cette couche. » De commentaires que Foucault a ajouté. Je vais, dit Derrida, le relire en philosophe. Évidemment, la transgression foucauldienne, qui est de dire moi j'arrête de lire en philosophe, je fais une nouvelle pratique, je vais y revenir, est contestée par Derrida. Derrida dit je compte privilégier, je le cite, l'analyse interne et autonome du contenu philosophique du discours. Fin de citation. Foucault, vous le savez, hein, est le premier commentateur qui a isolé le délire et la folie de la sensibilité et des songes. Il a fait de la folie une instance qui ne peut pas être rapprochée du rêve ou de l'erreur des sens, bien sûr. Alors, Derrida dit « Je vais revenir au texte » et d'ailleurs, je critique le fait que Foucault ait utilisé la traduction française de la première méditation, puisque c'est ce texte qui est commenté, bien sûr, dans la traduction française du Duc de Luynes, qui est, comme on le sait, fautive. Alors, 2 minutes encore, le 26 août 1971, et là, bien entendu, je vous ai décrit un microcosme parisien, la revue de Métaphe, tel quel, deux arrondissements de Paris, le 5e et le 6e, mais, et c'est aussi le début, je pense, de ce qu'on appelait la French Theory, de l'internationalisation de la philosophie française. Donc, le 26 août 1971, le directeur de la revue japonaise Paideia, Mikitaka Nakano, acteur mineur mais décisif, propose à Foucault le plan d'un numéro spécial consacré au lien entre son travail philosophique et la littérature. Et il lui signale que est prévu dans le numéro la traduction du déjà célèbre article de Derrida, Cogito et Histoire de la folie. Alors Foucault, qui avait prévu de lui fourguer, on peut dire, au Japon, il ne savait pas trop ce que c'était, une préface qu'il avait faite pour une réédition de la grammaire de Port-Royal, dit non, je vais faire une réponse à Derrida. Le texte de 71 en japonais, traduit en japonais, sera republié donc dans sa version française l'année suivante, en 72, dans la nouvelle édition de l'Histoire de la folie. Foucault commence par saluer la remarquable critique de Derrida. Mais il va tout de suite sortir l'arme lourde. Foucault va précisément, critiquer la notion, alors que Derrida n'utilise pas dans son article, mais qui est évidente, hein, c'est que Derrida a dit, il n'y a pas de hors-texte, et il dit, je vais revenir au texte, en gros, dans sa critique. Et donc Foucault va lui dire, saurait-il y avoir quelque chose d'antérieur ou d'extérieur au discours philosophique ? Foucault va utiliser les mêmes armes que Derrida, c'est-à-dire le retour au texte latin, la rigueur du commentaire, mais en les mettant au service d'un autre objectif, qui constitue un déplacement, et qui constitue un commentaire critique sur l'exercice même de l'explication de textes philosophiques. Alors, je vais vite. Hein. Je cite à nouveau Foucault. « J'ai l'impression, écrit-il, que si un lecteur aussi remarquablement assidu que Derrida a manqué tant de références littéraires, thématiques ou textuelles, c'est pour avoir méconnu celles qui en forment le principe, à savoir les différences discursives. Et la clé, selon Foucault, se trouve dans la notion même de méditation qui produit, comme autant d'événements discursifs, des énoncés nouveaux qui emportent avec eux une série de modifications du sujet énonçant. Fin de citation. Donc, Foucault transforme les conditions de la lecture de textes, des textes, qui sont pour lui le produit d'un entrecroisement de trames différentes. Il établit que la folie est d'emblée disqualifiée dans toute recherche de la certitude ou de la vérité. Il s'agit, la folie, dit Foucault, est une épreuve excessive et impossible. Bon, alors, je vais conclure là en disant que Foucault va disqualifier la lecture de Derrida, les opérations que Derrida fait subir au texte. Je le cite et je conclue. Foucault parle ici. Peut-être faut-il se le demander pourquoi Derrida a été aussi mauvais. Hein. Peut-être faut-il se le demander dans la mesure où Derrida ne fait que ranimer en sa lecture une bien vieille tradition. Je suis bien d'accord sur un point au moins, ce n'est point par un effet de leur inattention que les interprètes classiques ont gommé avant Derrida et comme lui ce passage de Descartes. C'est par système, système dont Derrida est aujourd'hui le représentant le plus décisif, en son ultime éclat, réduction des pratiques discursives aux traces textuelles, élision des événements pour n'y retenir que des marques pour une lecture, invention de voix derrière les textes pour n'avoir pas à analyser les modes d'implication du sujet dans les discours, assignation de l'originaire comme dit et non dit dans le texte, pour ne pas replacer les pratiques discursives dans le champ des transformations où elles s'effectuent. Fin de citation. Et alors, bien entendu, Foucault donne le coup de pied de l'âne en disant Derrida, au fond, est le dernier représentant d'une petite pédagogie historiquement bien déterminée qui, de manière très visible, se manifeste. Je le cite à nouveau, « pédagogie qui enseigne à l'élève qu'il n'y a rien en dehors du texte, mais qu'en lui, en ses interstices, dans ses blancs et ses non-dits, règne la réserve de l'origine, qu'il n'est donc point nécessaire d'aller chercher ailleurs, mais qu'ici même, non point dans les mots certes, mais dans les mots comme rature, dans leur grille, se dit le sens de l'être. Pédagogie qui inversement donne à la voix des maîtres cette souveraineté sans limite qui lui permet indéfiniment de redire le texte. » Fin de citation. Alors, évidemment, je donne une conclusion sociologique à cette brève lecture, que je vous invite à approfondir, bien entendu. Derrida, qui avançait masqué sous la bure de l'humble disciple, se trouve requalifié en maître par Foucault. Et ce jeu sur le disciple et le maître est absolument central si l'on veut comprendre cette controverse. La controverse, que je viens d'analyser trop rapidement devant vous, se développe entre des proches qui partagent une formation identique. C'est une association très française entre une lecture de la phénoménologie et une lecture aussi de l'œuvre de Heidegger avec des distances variables d'un côté, et de l'autre une préoccupation pour l'histoire des sciences telle que l'ont pratiquée Bachelard et Canguilhem, là aussi avec des rapports variables. Le plus important pour moi est le moment de cette controverse, celle où les acteurs ont l'impression que quelque chose de nouveau peut être joué dans le champ de la philosophie. Sartre, vous le savez, a raté son retour avec la critique de la raison dialectique en 1960. Le groupe en fusion, disons, n'a pas vraiment chauffé. La linguistique et les sciences humaines apparaissent comme des alternatives. La fin de la guerre d'Algérie a levé un certain nombre de contraintes idéologiques. Le sentiment accru de la possibilité de jouer des coups qui transformeront durablement la donne reconfigure l'espace de la polémique en incluant la capacité de transformer l'institution philosophique. Il est significatif que Foucault réserve sa dernière flèche à Derrida en le comparant au père Bourdin, figure de la scolastique opposée à la radicale nouveauté cartésienne. Derrida n'est autre qu'un philosophe médiéval, universitaire, attardé. Par là, il me semble que cette controverse locale peut être déplacée, et on parlait tout à l'heure de changement d'échelle, par là, cette controverse locale entre deux contemporains renvoie à un débat inscrit dans la longue durée sur la pertinence des institutions pour la production de connaissances. Et je reviens donc au début pour finir. Descartes l'avait défini sous sa forme moderne, l'institution d'un nouveau savoir, hein, ce qu'on appelait la nouvelle philosophie de M. Descartes. L'institution d'un nouveau savoir passe par la critique des institutions de savoir, dispositif qui est aussi, on l'a vu, je pense un petit peu aujourd'hui, une controverse interne à l'institution et de ce fait interminable. Interminable veut dire que je peux terminer. Merci.